Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
Je ne sais pas s'il faut attendre que la musique se taise ou... On commence ? Bon. Donc, il faut que je vous prépare à recevoir ce que va vous dire le Père Marie-Dominique qui écoute derrière les enceintes. Qui va vous parler sur cette parole de l'évangile de Saint Jean. Il leur montra ses mains et ses côtés. Et vous avez entendu le passage de l'évangile de la prière du matin qui nous mettait en présence de la personne de Jésus ressuscité, présent dans son corps dont les apôtres ne savent pas encore de quelle qualité, quelle mutation profonde il a subi. Mais on peut se demander pourquoi le corps est si important, puisque c'est presque par lui que Jésus se fait reconnaître. À travers les plaies de sa passion. Comment se fait-il que ces plaies soient encore si présentes, si vivantes au matin de Pâques, ou le soir de Pâques plus exactement? Et puis nous aurions cette parole de l'Épître aux Colossiens qui doit aussi nous faire réfléchir. Pour mieux découvrir ce qu'est notre corps, je dois vous exhorter sur grandeur et mystère du corps humain, et misère du corps humain, pas mystère, misère. Ce qui montre bien que nous avons beaucoup de peine à découvrir ce qu'il est, à le recevoir en vérité et à le vivre. Or, l'Épître aux Colossiens nous dit une chose assez extraordinaire. C'est par le corps humain que nous avons été sauvés. Pourquoi Dieu veut-il se servir du corps pour nous sauver? Voyez, l'humanité, aussi l'on regarde un petit peu sa manière dont elle a essayé de recevoir le corps ou de le vivre, oscille constamment entre deux extrêmes. D'ailleurs, ces deux extrêmes, quelle que soit la dominante de l'époque dans laquelle nous vivons, nous sommes plutôt dans une période d'exaltation du corps, voire d'idolâtrie du corps. Hier, je suis tombé, c'est pas mon habitude, devant un poste de télévision ouvert. Et c'était des épreuves de saut à la perche. Alors, en voyant cela... Et surtout des femmes qui sautaient à la perche. Oui, mais je me suis dit, au fond, ces corps-là, d'ailleurs on se demandait si c'était des corps d'hommes ou de corps de femmes. Mais c'est vrai, des biceps invraisemblables, Et cette performance, cette intelligence même, on les voyait concentrés, ayant le trac, un peu plus que moi ce matin. Et tout était dans cette performance sur le corps, appuyé sur le corps. Cette espèce d'idolâtrie de la force du corps, de la performance du corps. Moi qui n'avais pas vu ça depuis 30 ans presque, je crois de pouvoir dire, j'étais vraiment assez stupéfié. Je vous disais que l'humanité a tendance à osciller entre deux extrêmes, et ces deux extrêmes qui réapparaissent plus ou moins fortement selon nos circonstances de vie ou notre âge, d'une exaltation du corps ou alors d'une espèce de rejet du corps, parce que l'exaltation du corps appelle son contraire. Si vous avez un corps qui ne vous convient pas, l'aspect de l'apparence, l'aspect de la beauté, ce que la société vous dit, d'un corps idéal. Regardez la publicité, comme elle met constamment le corps en vedette pour en faire votre qualité personnelle, votre valeur. Eh bien, quand votre corps ne correspond pas au canon de beauté, vous n'êtes plus personne. D'où cette haine du corps, ou cette espèce de compulsion à avoir un corps qui correspond à un corps idéal. Est-ce que vous pensez que si le corps, c'est vraiment cela, Dieu a besoin d'un corps pour nous sauver? Qu'est-ce que porte le corps en lui? Pourquoi Dieu nous a-t-il fait un corps? Pourquoi faut-il porter ce corps qui, de temps en temps, peut devenir ce qu'il y a peut-être de plus lourd, de plus angoissant? Ça, c'est à l'autre extrême de notre existence. Et dont notre société a beaucoup de peine à accepter la vérité, c'est notre corps nous mène à la mort, à la maladie, au vieillissement. Des fois, il peut empêcher ce qu'il y a de plus profond en nous, notre esprit, notre âme spirituelle, de s'exprimer. D'où la tentation d'arrêter la vie quand le corps n'est plus capable de la rayonner de façon visible et de façon épanouissante. L'euthanasie, la suppression souvent de toutes les déficiences corporelles, les handicapés, où l'on voit bien que le corps est lourd pour ce que nous portons de plus profond en nous pour accomplir notre vie. Vous voyez que le corps nous met véritablement devant une question, une interrogation sur le mystère de l'homme et de sa personne. Pourquoi le corps ? Pourquoi lier un corps à l'esprit? Pourquoi Dieu, si je le regarde dans une vision de sagesse, et quand je regarde une vision de sagesse révélée, comme la Bible me le montre, si vous regardez les premiers chapitres de la Genèse, Dieu veut vraiment le corps. Il façonna ce corps en prenant de la glaise, et puis il insuffla un souffle de vie. Et l'on voit bien que de ce premier homme, il tire la femme pour qu'il connaisse cette unité fondamentale dans une diversité, une complémentarité qu'exprime ce merveilleux cri que nous avons beaucoup de peine à redécouvrir, tellement nos rapports avec nos corps et entre hommes et femmes sont devenus compliqués. Oh, pour le coup, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Ce cri si simple, si merveilleux d'Adam quand il découvre Ève, la femme, qui lui est donnée pour véritablement vivre en plénitude sa vocation personnelle d'homme. Alors faut-il aller dans le sens d'une exaltation du corps, d'un mépris du corps, ou bien la vérité est ailleurs. Elle est ni dans une exaltation, ni dans un mépris. Parce que quand j'exalte le corps se venge, on pourrait dire. Il se venge parce que sa présence à ma personne, puisque mon corps fait partie de ma personne, met ma personne dans une capacité de responsabilité dans mes gestes vis-à-vis de l'autre, dans mes gestes qui veulent exprimer ma capacité d'aimer dans ce qu'il y a de plus profond, eh bien, grâce à mon corps, mes gestes ont un réalisme et une efficacité qui est comme le signe à la fois de la grandeur du corps et que le corps n'est pas ce qu'il y a de premier. Il est fait pour accomplir ce qu'il y a de plus profond, de plus caché, ce qui constitue l'aspiration la plus grande d'une personne humaine, c'est de pouvoir choisir librement, profondément, une autre personne pour elle-même et pour l'aimer. Et pour alors accomplir ce choix dans des gestes qui soit vrai et qui accomplisse ce choix d'amour sur une autre personne. Quand nous prenons le corps pour un lieu d'épanouissement individuel, un lieu d'épanouissement de notre moi, un lieu de plaisir, un lieu où je crois que je vais connaître sensiblement l'absolu que je porte en moi comme désir de vivre une expérience absolue. Notre corps, c'est notre kit que nous portons avec nous, qui est capable de nous donner des expériences sensibles qui singent l'absolu. C'est vrai, on le voit d'ailleurs dans la sexualité, dans la drogue, dans la nourriture, dans le sport, tous ces lieux où notre corps est capable de nous faire croire qu'en lui réside l'absolu. Vous voyez, par exemple, si dans la sexualité je dis que l'absolu est dans l'exercice de la sexualité, que c'est là que se réalise l'expérience d'amour la plus grande, or comme l'engagement du corps implique une sexualité, que la sexualité c'est un ordre à la vie, on voit bien comment cela va fausser et rendre presque insupportable cette capacité merveilleuse que notre corps porte en lui de faire de nous des sources d'un autre être humain dans la fécondité. Notre monde a beaucoup de peine à recevoir peut-être ce que notre corps porte de plus précieux en lui, parce que c'est un corps capable de permettre à l'esprit humain, à la capacité humaine d'aimer, d'être source d'un autre être humain. La peur de la fécondité. Cela fait partie de ces éléments de culture de mort dont notre Saint-Père parle si souvent et qui nous rendent comme notre corps opaque à ce qu'il porte en lui de si important, de si sérieux, de si grave, et qui nous invite à découvrir comment permettre à notre corps d'incarner jusqu'au bout notre présence d'amour dans la vérité. Sinon, nous sommes devant cette absurdité devant lequel nous sommes parce que nous ne voyons plus cette vocation profonde du corps à accomplir la vie de l'esprit dans ce qu'elle a de plus profond, cette capacité d'aimer. Et nous, nous déresponsabilisons en faisant de notre corps un corps qui n'a plus sa capacité d'accomplir ce que nous pouvons porter de plus profond en nous. C'est là qu'il faudrait situer tout l'aspect de la contraception et de l'avortement, qui sont les corollaires de personnes qui n'assument pas leur corps, où le corps n'est pas intégré dans notre personne. Si le corps a une grande vocation du côté de la responsabilité d'amour et du don de notre personne à la personne aimée, alors on peut peut-être comprendre pourquoi Dieu, quand il veut sauver l'homme, il vient mendier un corps humain à une femme, à Marie, pour qu'en lui, en ce corps, puisse s'accomplir le don le plus gratuit et le plus absolu de l'amour, qu'est ce sacrifice d'amour extraordinaire que Jésus accomplit à la croix. Et c'est pour cela que ce corps reste marqué de son engagement vrai dans l'amour vis-à-vis de chacun d'entre nous, jusqu'au-delà de la résurrection, jusque dans la gloire. Le Père Philippe essaiera de vous faire rentrer, je pense, je m'avance pour lui, dans cette révélation dernière de la signification du corps, telle que le Christ nous la montre. Comme chrétien, et là il y a peut-être certainement un manque de notre part, comme chrétien, c'est peut-être nous qui avons la responsabilité la plus grande vis-à-vis du monde, puisque nous avons cette lumière du corps vécu par Dieu. Et c'est une chose extraordinaire, parce que c'est peut-être que Dieu qui vit pleinement, en pleine vérité, ce qu'est le corps humain. Tellement le corps humain est presque trop grand pour l'homme, tellement nous sommes souvent abîmés dans notre manière de le vivre. Ce n'est pas entièrement de notre faute, puisque nous sommes les héritiers de ce péché originel qui nous rend si difficilement capables d'aimer en vérité jusqu'au bout. D'où ces complicités entre notre cœur et nos instincts, nos passions, qui nous font toujours opter pour cet aspect sensible et épanouissant de notre corps. Mais alors notre corps, il est qu'au fond une petite réserve de drogue que nous portons avec nous. Le corps est quelque chose d'infiniment plus grand. Et le Christ le vit à l'extrême. Parce que le Christ nous montre que le corps, c'est pour aimer jusqu'au bout, dans l'extrême vérité de l'extrême amour. C'est pour cela que, comme chrétiens, nous avons une très grande responsabilité pour faire découvrir au monde celui qui cherche, il sent quelque chose de juste, que je ne peux pas être pleinement homme si je rejette mon corps. C'est pas vrai. Sinon, on ne voit pas pourquoi il y aurait cette promesse extraordinaire et que le Christ le vive en premier, et que Marie, dans son mystère d'Assomption, le vive maintenant, c'est que notre corps, non seulement ne termine pas comme cadavre, mais qu'il est appelé à ressusciter et être glorifié. Notre corps, nous ne nous en débarrassons pas après notre mort. Et ce n'est pas lui qui scelle l'anéantissement complet de notre personne, comme notre monde matérialiste, idéologiquement matérialiste, voudrait nous le faire toucher. Notre corps n'est pas seulement un réservoir de gènes pour l'avenir de l'humanité nouvelle. Ah non, c'est quelque chose d'infiniment plus grand. Il est le lieu de l'accomplissement de l'extrême amour. Jésus vient nous manifester et nous montrer et réaliser dans notre monde ce que c'est que d'aimer jusqu'au bout. Et si l'homme est chef-d'œuvre, c'est que grâce à son corps, il a une aptitude extraordinaire à pouvoir aimer jusqu'au bout. dans la responsabilité la plus grande de l'amour. Et les deux lieux de la responsabilité la plus grande de l'amour, c'est-à-dire là où notre corps nous oblige à être vrai. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Si je ne suis pas vrai, mon don n'est pas un don. Et c'est pour cela que le corps est comme un appel à devenir vrai dans l'amour. Les deux lieux où nous sommes face à une responsabilité presque absolue, substantielle on pourrait dire, c'est la sexualité et la mort. C'est presque les deux lieux sensibles où notre corps nous met face à quelque chose d'absolu. Et c'est pour ça que ces deux absolus nous font peur et que nous avons tendance à fuir devant cet absolu que le corps porte en lui et que seul un amour spirituel et un amour de charité pour la mort peuvent assumer, porter et accomplir dans un amour qui va jusqu'au bout de ce qu'il porte en lui-même. Et qui fait que l'homme, grâce à son corps, est alors la créature spirituelle la plus capable d'aller jusqu'au bout et de réaliser sa vocation à aimer. C'est d'une fécondité d'amour. Si j'ai peur de la fécondité d'amour, la fécondité de l'amour, eh bien, je ferai de ma vie une fuite permanente vis-à-vis de mon propre mystère et j'essaierai de me persuader que ma vie humaine, c'est pour jouer. C'est un jeu. Et quand on est face à la mort, il n'y a plus de jeu. Je ne peux plus jouer devant la mort. Alors j'aurai tendance à supprimer mon existence parce que le jeu est intenable quand il entre dans le tragique de la mort. Devant lequel le corps nous met constamment. Notre monde voudrait nous faire croire que la vie est un jeu. Jésus nous montre, c'est juste l'inverse. C'est terrible de passer sa vie à jouer. Et notre corps peut devenir un terrible complice parce que il est le lieu du jeu. Alors je vais le trafiquer. Je vais changer la signification du corps pour que je ne sois plus devant ce qu'il porte de plus profond en lui-même, c'est-à-dire ce qui est un appel à vivre ma responsabilité de l'amour dans ce qu'elle a, peut-être de très vertigineux, mais de merveilleux. Il est ce qui convoque mon cœur à choisir de se donner, mais jusqu'au bout, en pleine vérité, pour que l'amour soit fécond. D'être source d'un autre être humain, c'est une responsabilité, c'est vrai, qui met l'homme et la femme devant une responsabilité qu'ils vont porter toute leur vie. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, que seul un véritable amour, un amour spirituel, peut porter, mais qu'il attend de porter pour être vraiment lui-même. Si je fuis cette responsabilité, eh bien, d'une certaine manière, je reste comme un nain qui joue et qui a peur de s'ouvrir à ce qui demeure, il est vrai, souvent tellement caché. Parce que la croissance de la personne nous apprend à petit découvrir combien notre corps, nous devons apprendre à le vivre de telle manière que la vérité qu'il porte en lui m'appelle à une vérité de mon cœur pour que je l'engage dans mes gestes, dans ma vie, selon toute la densité qu'il porte en lui, la gravité qu'il porte en lui, d'être capable d'être source d'un autre et d'être celui qui me met face au mystère de ma mort. La mort, je ne peux la voir en face que dans la lumière d'un amour plus fort que la mort. Et cet amour plus fort que la mort, quel amour que Dieu vient nous révéler à travers l'humanité de Jésus qui ressuscite au-delà du drame de la mort de Jésus, nous montre que notre corps est appelé à accomplir dans la vie de l'homme quand il se laisse visiter par cette vie nouvelle de Jésus, une vocation extrême à l'amour. Vous vous rappelez qui est encore plus grande que celle du corps dans la fécondité humaine, dans le mariage. Vous comprenez pourquoi je dis dans le mariage ? Car si j'engage mon corps dans ma sexualité, je m'engage à porter un autre être humain jusqu'à sa croissance humaine, jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et donc ça implique cet engagement, cette coopération, cette communion, cette coopération entre l'homme et la femme qui soit un engagement qui porte dans la durée, sur laquelle le nouvel être humain puisse s'appuyer. Cette vérité du corps qui nous est révélée jusqu'au bout par Jésus, qui nous dit cette parole. Et c'est pour cela que notre monde ne doit pas non plus manquer le rendez-vous avec la mort. Il ne doit pas manquer le rendez-vous avec la vie et il ne doit pas non plus manquer le rendez-vous avec la mort, parce qu'il aurait tendance à jouer avec ces deux lieux que nous montre le corps et devant lequel l'homme doit choisir et par lequel il peut devenir, il peut grandir et connaître jusqu'au bout sa vocation, ce rendez-vous avec la mort, que Jésus appelle à devenir une mort d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez que nous sommes, l'être humain est comme appelé à l'extrême amour. Paradoxalement, par son corps, qui n'est pas ce qu'il y a de premier. C'est par son esprit qu'il a une telle vocation. Mais c'est parce qu'il est, il est aussi son corps qu'il peut connaître ces deux lieux d'une responsabilité dans l'amour que seul lui peut connaître. Aucun ange ne peut connaître une telle gravité dans l'amour, c'est-à-dire une telle densité dans ses choix d'amour, que l'être humain, parce que son corps le met face à des choix de vérité et des choix de pauvreté à travers lesquels Dieu veut passer. Et Jésus a visité notre corps. Et il nous en dévoile peut-être l'ultime secret. C'est le lieu d'aimer jusqu'à la mort, c'est-à-dire d'un don absolu, qui va encore plus loin qu'un don dans le don des corps de l'amour spirituel humain. D'aimer dans l'absolu. Et la mort manifeste cet absolu pour devenir une mort d'amour quand nous la vivons en Jésus. Nous avons cette lumière et le Père Philippe a beaucoup insisté pour que nous le recevions, cette lumière, puisque l'Église a reçu cette lumière dans la personne de la petite Thérèse comme docteur de l'Église. Eh bien, la grâce qu'elle a demandée toute sa vie, c'est d'avoir la grâce de mourir d'amour. Pour mourir d'amour, il faut mettre notre corps jusqu'au bout au service du don d'amour selon le bon plaisir de Jésus. C'est peut-être le grand secret que Thérèse peut nous donner et que nous pouvons lui demander qu'elle nous apprenne à vivre la gravité de notre corps dans cet appel à aimer à l'extrême amour pour aimer jusqu'à la mort, c'est-à-dire mourir d'amour. Que l'amour divin puisse se servir jusqu'à la mort de notre corps pour en faire une mort d'une fécondité divine. Alors maintenant, je vais m'effacer devant mon Père et mon Maître, et c'est lui qui vous parlera de ce mystère du corps de Jésus.
Vous avez peut-être vu dans vos livrets que la lumière qu'il nous était donnée aujourd'hui, c'est une parole de Saint Jean. À la fin de l'évangile, c'est l'apparition de Jésus aux 12. Jésus qui monte ses mains et son côté. Les disciples pleins de joie et le Seigneur qui leur communique la paix et qui les envoie. Jésus, 3 jours avant, était mort, supplicié dans son corps, labouré dans son corps. Et voilà qu'il apparaît ressuscité, son corps transfiguré. Et premier d'une multitude, comme nous dit à d'autres endroits l'Écriture. Jésus nous a sauvés en offrant sa vie, en offrant son corps. Dieu a voulu qu'on soit sauvé quelque part par le corps humain offert. Il a offert toute sa vie, il a offert son cœur, mais il a offert son corps aussi. Et puis, on découvre qu'on est appelé à la résurrection, corps et âme. Alors, cette exhortation, c'est simplement, ensemble avec vous, de nous interroger sur la place du corps dans la personne, dans l'homme, l'être humain, et comme chrétien. Visiblement, c'est important quand même. C'est quand même pas banal que Dieu ait voulu nous sauver ainsi, avec un corps offert, labouré, supplicié. S'il y en a qui ont vu le Saint-Linceul, c'est bouleversant. Il n'y a pas un endroit du corps de Jésus qui ne soit marqué de souffrance. Et ce corps, maintenant, est ressuscité, glorieux. Alors, on va s'interroger là-dessus. On a, vous savez, 2 sources de lumière quand on réfléchit. Ça, c'est un petit truc à bien savoir, bien comprendre. Il faut bien les distinguer. Quand on réfléchit et qu'on veut comprendre quelque chose, on a 2 sources de lumière. D'abord, notre intelligence humaine. On est tous intelligents, tous capables de comprendre. Et en plus, on a de la chance, c'est qu'on peut se communiquer nos lumières. Alors ça, c'est super. Quand on n'a pas beaucoup, ce qui est mon cas, eh bien, on cherche la lumière chez les autres. Et on est capable, en tout cas, de la recevoir. Donc on a cette lumière de l'intelligence humaine. Et puis nous qui sommes chrétiens, je crois qu'on l'est tous ici, on a une autre lumière qui est celle de la foi. La lumière qu'on trouve dans la révélation, dans l'écriture et dans l'enseignement de l'Église. Alors on va se servir des 2. Pour essayer de regarder un petit peu le mystère du corps humain. Je voudrais vous inviter d'abord à l'émerveillement devant le corps humain. C'est une merveille incomparable et à travers laquelle se dévoile et se cache en même temps le mystère d'une personne humaine. Alors, le corps humain, vraiment, si je suis honnête, hein, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, c'est le chef-d'œuvre de tout l'univers connu, visible. C'est le chef-d'œuvre. Le scientifique, j'étais scientifique, le dit. Le scientifique est bouleversé de la qualité de la matière, déjà, du corps humain. Et plus encore, bouleversé de la complexité du corps humain, de sa perfection. Il suffit de penser à la complexité du cerveau, par exemple, ou des régulations hormonales ou de système immunitaire. On est stupéfait. Et en plus, le scientifique constate que c'est l'être le plus un. Nous, c'est pas comme les vers de terre, hein. C'est pas en coupant une jambe, on s'en ferait un petit. On est extrêmement un. Extrêmement adaptable, on va partout, on va même mettre les pieds sur la lune. Les fourmis se contentent de rester en bas. Et en plus, on est pourtant très fragile. Vous connaissez un petit bébé animal plus fragile que l'être humain ? Il nous faut des années avant de pouvoir se débrouiller tout seul. On est nourri, protégé, vêtu, on est les seuls, tout glabres, on n'a pas beaucoup de poils sur nous-mêmes. On est vraiment et le plus fragile et le plus fort, le plus complexe. Le scientifique est bouleversé, et pour lui, c'est le terme de l'évolution. L'artiste, je ne développerai pas, mais au niveau artistique, c'est vrai que la source première d'inspiration de l'artiste, c'est le corps humain. Corps de l'homme et plus encore le corps de la femme. Et c'est beau parce que les artistes ne représentent pas toujours que des gens canons, style dans, je sais pas quoi, Femme Actuelle ou tous les bouquins, tous les canards, les publicités. C'est très beau. Les artistes, ils représentent le corps. Il y en a des petits, des gros, un peu de toutes les sortes. Et un bon artiste montre que le corps est comme un mystère, c'est-à-dire une personne. Et c'est vrai que quand on réfléchit, on va faire les petits philosophes. Vous savez ce que c'est qu'un philosophe ? C'est simplement quelqu'un qui cherche la vérité et qui veut se mettre à l'école de la réalité et qui se mobilise pour comprendre la réalité telle qu'elle est. Donc on est tous des petites graines de philosophes si on est là parce qu'on cherche la lumière. Alors déjà, il y a une chose qui est bouleversante. Vous avez déjà remarqué la morphologie d'une personne, enfin d'un homme ou d'une femme. On a les pieds en bas et la tête au sommet. Ça vous a peut-être jamais frappé. Mais déjà, c'est assez instable comme situation, même je tiens sur un pied. Mais en plus, c'est évocateur de quelque chose d'étonnant. On est posé sur le sol, bien enraciné sur la terre, et on a la tête vers les hauteurs. Ça dit quelque chose de cette tension de l'homme, de l'être humain, entre le sol et le ciel. En plus, vous avez peut-être remarqué, on a une face et un dos. On est les seuls, ce que je dis ça. Vous avez déjà vu des animaux ? Non, on est les seuls à être fichus comme ça. Et ça nous dit quelque chose du fait que la personne humaine, avec son corps nous dit quelque chose. On est fait pour, je dirais, se tourner vers le monde et pour la rencontre personnelle face à face. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont fascinantes dans le corps humain. On pourrait développer beaucoup, je ne sais pas trop, parce que je sais que le temps est court, mais une autre chose aussi qui est encore beaucoup plus bouleversante, quand on arrive à se mettre dans la tête des choses aussi fausses que l'être humain est simplement le sommet de l'évolution, c'est qu'on a complètement, on n'est plus soi-même. Parce qu'il y a des choses dans le corps humain qui sont stupéfiantes. Le regard, le sourire, la voix, les gestes humains sont... Effectivement, il y a des mouvements de la chair quand on fait un sourire. Mais ça dévoile qu'il y a dans la personne quelque chose d'autre que son corps qui l'anime. C'est impressionnant, ce sont comme des zones frontières. Comme si on voyait dans le corps, à travers le corps, l'émergence de l'esprit. Et ça, aller chercher chez les animaux, c'est très joli, le regard du cheval est très joli. Très beau, mais ça, rien n'émerge. Regardez bien dans les yeux votre chat, rien n'émerge. C'est très important parce que vous verrez, on va essayer de réfléchir après. Le corps humain n'est pas simplement qu'on est fait différemment, comme le diront les scientifiques, on est quand même les meilleurs, c'est sûr. Pas simplement au football, mais et puis on est les meilleurs de l'univers, effectivement, avec notre corps. Mais surtout, pourquoi notre corps est humain et comment on sait qu'il est humain ? C'est par cette émergence qu'on voit à travers le corps de l'esprit. Vous voyez ? Le corps n'est humain que par son âme. Mais quand on voit un cadavre, il n'y a plus cette présence. Tout de suite, ça redevient anonyme. Donc il y a un mystère du corps humain. Donc, on va essayer de continuer à réfléchir. Déjà, alors j'espère que vous êtes tous émerveillés sur votre corps, n'est-ce pas ? Maintenant, si je faisais une enquête, je suis persuadée que la plupart d'entre vous sont mal dans votre corps, et moi aussi, et tout le monde. C'est quand même curieux. Notre corps est merveilleux, mais on n'est pas si bien dedans. Il n'y a jamais eu autant de maladies liées au malaise par rapport au corps. L'anorexie, la boulimie, toutes ces choses-là, qui montre qu'il y a un malaise. Et puis, on est souvent tellement mal à l'aise qu'en fait, on va se cacher en s'habillant tous pareil, en jean et en t-shirt. Vous voyez ? Et c'est significatif qu'on n'est pas aussi à l'aise. Actuellement, et je crois que c'est très important de voir, il y a un regard sur le corps très paradoxal. Vient d'avoir la Coupe du Monde. Vous avez peut-être remarqué qu'on en a fait plus d'un plat que pour les JMJ, qui était pourtant déjà un beau plat. C'est très significatif. Cette Coupe du Monde est un des signes de ce regard sur le corps qui, on exalte le corps, on en fait une idole, on le bichonne comme un pur sang, il faut qu'il soit le meilleur, on prend tous les moyens, si c'est doping, tout. Vous voyez ? Regardez les publicités. Tous les journaux, surtout les journaux pour les femmes. L'importance du corps, qu'on regarde comme une idole. Donc il y a à la fois une exaltation actuellement du corps, et à la fois, il n'y a jamais eu, comme je le disais, autant de malaise. Il y a un autre malaise qui est énorme et qui touche le corps, c'est l'avortement. C'est impressionnant, comme ça s'étend, comme ça se multiplie. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit combien, d'abord, on ne respecte plus le corps du tout petit, mais même que veut dire le don des corps si, dès qu'il y a un fruit, qu'un petit enfant, on le supprime. Il nous faut absolument essayer de voir un peu plus clair. Je vous propose donc un petit peu deux pistes avec notre intelligence. On va essayer un tout petit peu. Puis après, on va surtout demander au bon Dieu de nous éclairer. Mon corps et moi, c'est quoi ? Enfin, c'est quoi mon corps dans ma personne ? Je crois que tous, on a sûrement l'expérience de l'amitié et on pourrait au moins dire que une personne, ça ne se réduit pas à son corps. Ça, je pense être tous d'accord. Quand on a un ami, une amie, on a compris comme Saint-Exupéry que l'essentiel est invisible pour les yeux et qu'il ne se voit que par le cœur. Donc on voit bien que l'essentiel de la personne, ce n'est pas son corps. Mais est-ce qu'on peut dire que le corps, c'est tout à fait secondaire ? Non. Le corps de mon ami, le corps, c'est aussi très important. Alors, c'est vrai que le philosophe en question, il est capable, on n'a pas le temps de le faire, mais de découvrir qu'effectivement, il y a dans la personne son corps, qui est vraiment lui-même, mais une source de vie qui, quelque part, transcende le corps. Il y a une dimension spirituelle dans la personne. Mais je dirais, ils sont liés comment, ces deux choses ? Alors, il y a deux erreurs grossières dans lesquelles il ne faut pas tomber. Il y en a une, elle nous guette toutes les deux, tout plus ou moins. On arrive d'ailleurs à faire un cocktail des deux. Il y en a une qu'on appelle le dualisme, c'est dire en fait, on est âme et corps. Alors, vous avez une petite boîte avec une lumière dedans. Bien, vous avez un esprit avec une enveloppe bien élaborée. Alors, évidemment, dans ces cas-là, moi, je ne vois pas pourquoi on ne croirait pas à la réincarnation. On change d'enveloppe, quoi. C'est vrai, c'est tout. Et vous voyez que tellement de jeunes sont attirés par la réincarnation, c'est quelque part, ils ont ça dans la tête. C'est qu'on est une âme et un corps. Et puis donc, on peut changer, quoi. On pourra se réincarner dans autre chose. Et c'est faux, on va le voir. Autre extrême, c'est on n'est qu'un corps. On est scientifique, on est un corps. Un corps vivant, quoi. Un corps qui bouge, puis c'est tout. Alors, quand on y réfléchit bien, eh bien non. Si on est honnête, on constate, moi je constate pour moi, faites l'expérience sur vous, on est tout un. Je suis corps et âme, mais mon âme c'est moi, mon corps c'est moi. Mon corps c'est pas un simple avoir. Mon corps c'est pas une enveloppe, mon corps c'est moi. Ça c'est très 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 important. Il y a une unité d'être, et je n'ai pas le droit d'imaginer, parce que ça c'est de l'imagination, qu'il y a un corps et une âme. Non, je suis un. Et quand on réfléchit même humainement à la vocation du corps humain, alors c'est sûr, ça sert pour le travail manuel,